Grand 6 les différentes formes de science sous le vocable de la science se cache une multiplicité de disciplines qui prennent des orientations diverses et chacune d'elles a une méthode spécifique. Selon une classification devenue classique en épistémologie, on distingue trois grandes catégories de sciences. Les sciences logico-formelles ou hypothético-déductives, les sciences expérimentales ou de la nature et les sciences sociales ou humaines. 1. Les sciences logico-formelles ou hypothético-déductives, elles sont constituées de la logique et des mathématiques. Elles sont dites formelles parce qu'elles recherchent la validité de la forme ou sa cohérence du point de vue de la logique, non la vérité de l'énoncé. Elles reposent essentiellement sur une démarche déductive rigoureuse. À titre d'exemple, on peut prendre le syllogisme d'Aristote. Tous les Sénégalais sont des Baol-Baol, Jean est un Sénégalais, donc Jean est un Baol-Baol. La proposition de départ est matériellement fausse, car tous les Sénégalais ne sont pas des Baol-Baol. Mais le raisonnement est cohérent, logique. En bref, les sciences formelles ou hypothético-déductives ne s'intéressent pas au contenu de la proposition, mais à la forme. C'est pourquoi elles sont dites formelles. 2. Les sciences expérimentales ou sciences de la nature. Elles étudient des réalités par le recours à l'expérience. À partir de l'étude des faits, elles essaient de dégager des lois et d'élaborer des théories. Les sciences expérimentales comprennent la physique qui étudie la matière interne et sa structure, la chimie qui étudie les composantes de la matière, la biologie qui a pour objet la matière vivante et l'astronomie qui s'intéresse au corps céleste. Les sciences expérimentales suivent une démarche ternaire, trois étapes, l'observation, l'hypothèse et la vérification. Une observation minutieuse des phénomènes permet de dégager une hypothèse, une supposition, une solution provisoire du problème posé. Ensuite, on passe à la vérification pour voir si l'hypothèse est confirmée. Si c'est le cas, on dégage une loi qui permet d'expliquer les rapports entre les phénomènes de la nature. 3. Les sciences sociales ou humaines, par sciences humaines, on entend une réflexion scientifique sur les hommes et leur comportement. Le problème de ces sciences est relatif à leur scientificité. On leur conteste leur caractère scientifique. Dans les sciences humaines, l'homme est à la fois observateur et observé, c'est-à-dire sujet et objet. Il n'y a pas de distance entre le sujet et l'objet, c'est l'homme qui s'étudie lui-même, d'où le risque de subjectivité. Il s'ensuit une rupture épistémologique entre les sciences exactes et les sciences humaines. Autrement dit, dans la nature, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est donc possible de prévoir un phénomène naturel, alors que l'homme est changeant suivant les circonstances. Si le phénomène naturel se répète, celui de l'homme ne l'est pas, ce qui pose le problème de scientificité des sciences sociales. Grand 5 sciences et techniques. Les rapports entre la science et la technique sont posés en termes d'antériorité de l'une par rapport à l'autre. La technique résulte-t-elle de la science ou est-ce la science qui résulte de la technique? En tout cas, tout le monde s'accorde à dire que l'homme a dû agir avant de réfléchir. Dès que l'homme est apparu sur Terre, il s'est mis à produire des outils pour affronter et transformer la nature. C'est pourquoi on l'appelle Homo faber ou animal fabricateur d'outils. Mais au cours de l'histoire, les techniques ont évolué, des plus archaïques aux plus modernes. Et c'est grâce aux techniques sophistiquées que la science progresse. Mais aussi c'est grâce aux avancées scientifiques que la technique se modernise, d'où un rapport de complémentarité entre science et technique. L'évolution des techniques dépend du progrès des connaissances scientifiques et vice-versa. C'est la technique qui fournit à la science les outils nécessaires à ses expériences, ses recherches. Même si les deux sont indépendantes, il est à souligner que, historiquement, la technique précède la science. La science décrit les choses telles qu'elles sont et non telles qu'elles devraient être. Elle cherche à démontrer l'ensemble de ses affirmations. Elle refuse l'arbitraire et le hasard qui sont une ignorance des causes. La technique, par contre, est un savoir-faire. Elle est une pratique, une action sur les choses. Grand si science est éthique, dans la mesure où les avancées de la technoscience posent des problèmes à l'humanité, aussi bien qu'elle arrive à en résoudre, il devient urgent de contrôler la science, de lui définir des barrières. On doit imposer à la science des limites sur le plan éthique, moral et juridique, afin d'éviter que l'homme ne soit prisonnier de ses propres productions, comme les techniques génétiques, le clonage, la nucléarisation, etc. La technoscience a donc une part de responsabilité dans les maux de la société. La science a mis à notre disposition un très grand pouvoir, sans nous dire comment l'utiliser. On prête même à Einstein les propos selon lesquels il aurait dit que s'il savait que les résultats de ses recherches feraient des dégâts, jamais il ne serait un scientifique. La science ne s'occupe pas d'éthique. C'est pourquoi les moralistes, philosophes et religieux peuvent bien apporter quelque chose aux savants. Dès lors, on comprend Jean Rostand qui disait que « la science a fait de nous des dieux avant que nous méritions d'être des hommes ». Grand cette science et erreur. La science est truffée d'erreurs. Par exemple, avec la découverte de la nivaquine, comprimée contre le paludisme, les scientifiques conseillaient d'en prendre chaque jour pour prévenir le paludisme. C'est seulement à la suite des débordements de ce comprimé qu'ils finissent par remettre en doute son utilisation quotidienne et ont demandé de n'en prendre que lorsqu'on est sur le point d'attraper le paludisme. Par voie de conséquence, la science est truffée d'erreurs. Mais ce sont ces erreurs qui lui permettent de progresser, selon Gaston Bachelard, dans son livre « La formation de l'esprit scientifique ». Au regard d'une telle conception, il est aisé de constater que la science n'est pas à l'abri de contradictions et de remises en cause, comme l'a si bien dit Karl Raymond Popper. La science progresse en rectifiant ses erreurs. Conclusion. La science et la technique ont permis de dominer et de maîtriser la nature. Les applications techniques de la science contribuent à l'amélioration des conditions de vie des hommes. Mais la science a des limites, elle ne peut satisfaire tout le désir de savoir de l'homme. Il y a aussi le fait que les sciences font courir de grands risques à l'espèce humaine, surtout avec la prolifération des armes, la pollution de l'environnement, etc. C'est pour cette raison que Karl Popper dit que « la science n'est pas le domaine de la sécurité, mais de l'insécurité ». D'où la nécessité de l'épistémologie, qui, par sa critique, permet aux sciences de mieux comprendre leurs principes et leurs démarches afin d'augmenter leur objectivité. Mais l'épistémologie vise essentiellement à protéger l'homme pour lui éviter d'être prisonnier de ses propres productions scientifiques.